Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Et si on crée un nouveau format, genre les grands entretiens de Silence on joue.
Les grands entretiens.
Ouais, ce serait bien quand même. Les grands entretiens de Silence on joue. On a le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode des grands entretiens. Non, on va pas le faire en fait. De cette émission spéciale Silence on joue d'entretien. Donc on a le plaisir d'accueillir Sébastien Bénard, alias Deep Knight, c'est ça.
C'est
de Motion Twin et on est là pour parler évidemment de cette sortie ultra spectaculaire de cet été, hein, Dead Cells, qui est arrivé sur console, qui était déjà présent sur PC depuis quelques mois, mais voilà, qui est arrivé avec fracas sur les consoles cet été. Et voilà, on a le merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invité, déjà, c'est hyper cool. Quoi.
Ouais, mais tout le monde est content, c'est formidable. Patrick Elio, tu es là aussi conduire
plaisir,
cet entretien,
sûr,
parce que tu as passé ton été sur Dead Cells.
Ouais, j'ai passé de nombreuses heures et j'y joue toujours. Enfin, c'est peu accro.
Je suis désolé.
Ah non, il faut passer.
On va en parler.
Ne jamais s'excuser, jamais de regret. Sébastien, on va commencer. Et puis, j'ai envie de savoir déjà d'où tu viens, comment tu es arrivé au jeu vidéo. On sait que tu es un amateur, enfin en tout cas, tu participes énormément au Game Jam. Hein, ça fait partie de tes habitudes. Mais voilà, déjà, comment tu en es venu à créer des jeux vidéo?
Je vais pas faire l'histoire en long parce que c'est super long et pas passionnant pour autant, quoi. Mais en gros, j'ai commencé vraiment très petit. C'était quand j'étais gamin, en fait, mon frère m'a appris à utiliser à l'époque un Atari ST et d'apprendre à l'époque qu'il y avait le basique. Quand on avait fini de faire le tour des disquettes, en fait, on finissait toujours sur la dernière disquette qui était le langage de prog, quoi. Et mon frère m'avait appris les bases en me disant, voilà, tu vas voir, c'est rigolo. Et j'avais adoré ça, en fait. Je m'étais inventé, je me rappelle à l'époque, je lisais les Mickey Parade et tout ça, et je m'étais inventé des jeux, en fait, en basique, où je faisais les aventures de Fantomialde tout en texte, avec un peu façon livre dont vous êtes l'héros. Et en fait, quand j'étais gamin, je me suis rendu compte que j'adorais ça. En fait, j'adorais jouer, mais en fait, j'adorais 10 fois plus raconter des histoires ou inventer un truc ou inventer des règles de jeu. Je remplissais des carnets entiers quand j'étais gamin aussi de trucs, de jeux que personne n'a jamais joué, parce qu'il n'y a que moi qui les ai vus, mais de trucs de ce genre-là. Quoi. Créer des jeux, ça m'a toujours bien botté. Ouais.
Donc, tu es team Atari ST?
Ouais, je suis carrément team Atari ST, okay. mais c'est, bon, voilà, c'est les meilleurs, c'est indéniable de toute façon.
Bon au revoir Patrick.
Je vais sortir.
Et donc, il y a cette passion initiale pour la création de jeux vidéo, la programmation aussi, en fait, le fait de faire quelque chose de ses mains, c'est ça?
Ouais, c'est ça, créer un truc. En fait, de pouvoir créer un truc et que quelqu'un d'autre, en fait, le voit. C'est vraiment le truc qui m'a toujours fait triper dans le jeu vidéo, c'est cette idée d'inventer un monde, par exemple, comme quand on fait du jeu de rôle, par exemple, ce genre de choses, d'inventer un monde et de regarder après les autres s'y promener ou s'y débattre, des fois, ça dépend, mais... Et ça, c'est un truc qui vraiment me plaît. Et aujourd'hui, c'est mon moteur de jeu vidéo, enfin, mon moteur de motivation.
Et comment on passe d'une passion et on en fait un métier?
Alors, c'est hyper accidentel, parce que quand j'étais en IUT informatique à Bordeaux, et à la fin de l'IUT, je savais pas encore trop à ce moment-là que j'allais pouvoir ou même que j'avais envie de bosser dans le jeu vidéo, puisque je faisais ça à titre de loisir. Hein. Et en fait, un peu accidentellement, j'ai vu une annonce passer de la part de Motion Twin, qui à l'époque se créait, ça faisait. Je dirais 6 mois que la structure existait. Et ils cherchaient un graphiste pour reskinner leur premier jeu, faire des trucs un peu plus pro. Et j'aimais bien dessiner, mais clairement, j'avais pas le niveau. Mais je me suis dit, soit sur un malentendu, ça peut passer. Alors, sur un gros malentendu, c'est passé, parce qu'effectivement, il y a eu plein de quiproquos.
T'as été embauché en tant que graphiste.
C'est ça. Alors, il n'y avait pas de contrat à l'époque, parce que la boîte n'avait pas vraiment de structure, on n'avait pas de salaire, tout ça. Mais officiellement, je suis rentré au début en tant que graphiste. Et au bout de 6 mois, ils se sont quand même bien rendu compte que c'était pas ouf ce que je faisais. Et là, je leur ai dit, je suis codé aussi. Et sinon je peux plus faire du jeu. Et en fait, ça a commencé comme ça. À l'époque, c'est Benjamin Soulet qui a quitté Motion Tune depuis, qui a monté sa propre structure, qui m'avait laissé ma chance et qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Et voilà.
Et donc, c'est quoi tes premiers jeux, ta première expérience de créateur de jeux professionnel?
Le premier jeu sur lequel j'ai bossé, il y en a plein. En fait, à l'époque, on avait plein de jeux qui ne sont pas sortis, donc on avait plein de prototypes qui n'ont jamais vu le jour. Vraiment, le plus gros projet sur lequel j'ai bossé au début s'appelait Hammerfest. C'était un jeu de plateforme, une espèce de lettre d'amour perso à Bubble Bobble, le jeu Bubble Bobble sur Atari, console, Amiga, tout ça. Et c'était vraiment un genre de jeu similaire, plateforme, des niveaux qui s'enchaînent avec des tonnes de petits trucs cachés dedans, des tonnes d'astuces. Et ça, c'était vraiment le plus gros premier truc que j'ai fait. Mmh. Avant, c'était des trucs plus anecdotiques, mais là, c'était vraiment un projet assez conséquent, quoi.
Et est-ce que à l'époque où t'as commencé, il y avait cette notion déjà de jeu indépendant, de pas être dans les gros, d'être différent des gros éditeurs
Quelle année à peu près là,
juste là, pour situer, ça c'était 2001 à peu près.
D'accord.
Ouais, ouais, c'était.
Je suis vieux, ouais, ça va. et non, en fait, ouais, ça remonte à 2001. Mais à l'époque, c'était un peu différent. Il y avait pas cette notion de jeu indépendant qu'on a aujourd'hui. C'était quand même bien avant. Et en fait, c'est l'époque du web. C'est vraiment la bulle Internet qui explose, tout ça là. Et c'est vraiment l'époque du web. Et en fait, la notion d'indépendance sur le web était un peu tacite parce que quand on faisait un jeu web, en fait, on n'était pas astreint à un publisher de trucs. Voilà. Et donc, ça avait un peu. Il y avait cette idée d'indépendance, mais qui n'était pas vraiment formulée parce que finalement, on ne le ressentait pas comme tel, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps après, je pense une bonne dizaine d'années après, quand les gros acteurs ont commencé à s'intéresser au free-to-play, notamment, avec l'avènement du mobile et tout, que là, on a eu cette notion d'indépendance qui est apparue plus fortement, en tout cas, quoi. Mais nous, à l'époque, on ne se sentait pas spécialement indé, en fait, enfin, on l'était de facto, mais c'était pas formulé, quoi.
Donc, si je résume, il y a une boîte qui se crée sur Internet en 2001 en France.
Voilà, c'est ça.
Bon moment.
C'était le meilleur moment.
Pour ceux qui n'étaient, je sais pas nés ou qui s'en souviennent pas, il y a. On parle de crise, mais alors le web en 2000-2001, c'est.
C'était Beyrouth. Hein.
Ah oui, il n'y avait plus rien. Enfin, c'est la bulle qui explose et qui laisse.
Beaucoup de boîtes, il y avait beaucoup d'agences web et tout ça à l'époque. Et en fait, nous, très brièvement, ce qui nous avait un peu sauvé, c'était une rencontre avec Tristan Colombet de Prizy.com. Ça dépend comment les gens le prononçaient. Mais avec qui on a monté, en fait, un jeu. On a fait plusieurs projets ensemble de jeux qu'on faisait sur sa plateforme de mini-jeux. Et on en avait monté un, notamment, dans lequel on s'était dit en délirant, tiens, ça serait rigolo, c'était un petit jeu d'astéroïdes où on a un vaisseau, il fallait péter des astéroïdes qui se séparent en deux. Et on avait dit, tiens, on va faire un petit jeu dans lequel on pourra acheter des options, genre avoir un canon plus puissant, une vie supplémentaire, et il y avait une troisième option, je sais plus, un bouclier, je crois. Et tout ça, chaque truc, c'était un SMS à envoyer. Et on s'est dit, bon, on va faire ça. Et puis à l'époque, on était hyper naïfs tous, y compris Tristan, parce qu'on s'est dit, tiens, on va partager les revenus à égalité, surtout. Et puis voilà. Et en fait, ça a explosé. Et c'est le moment où, pour nous, Motion Twin, ça a basculé dans l'idée que, ah tiens, on pouvait faire autrement que de vendre de la prestation, commencer à faire nos propres jeux et notre propre monétisation. C'était vraiment le début du free-to-play en France à ce moment-là, quoi.
Donc ouais, en plus vous arrivez très vite à faire de l'argent
un peu plus tard que très vite, mais je pense vers 2003-2004 si je dis pas de bêtises.
Ouais, parce qu'à Bordeaux, il y avait notamment
Callisto,
qui est une des grosses victimes de la bulle Internet qui explose.
Il y a plusieurs anciens, enfin, qui sont plus aujourd'hui, mais qui étaient de Motion Twin, qui ont touché d'une manière ou d'une autre à Callisto, en fait, qui ont travaillé en stage ou autre, quoi. Donc, mais de toute façon, à Bordeaux, tout le monde a bossé à Callisto à un moment donné. on a tous un grand-père qui était à Callisto.
c'est la tradition.
Motion Twin, d'ailleurs, c'est assez rigolo, hein, parce qu'avec le succès de Dead Cells, vous avez fait des interviews à l'étranger, aux États-Unis et tout ça. Et alors, s'il y a un truc qui ressort, s'il y a un truc qui scotche tout le monde, c'est la scope. Ah oui. Là, ils ne comprennent pas. Donc, parce que Motion Twin, que moi, évidemment, comme beaucoup, on suit quand même depuis quelques années, hein, que ceux qui connaissent les jeux Internet, les jeux en flash, les choses comme ça, c'était un nom qui était connu. Et on savait que voilà, c'était la scope de Bordeaux. C'est quoi le principe?
Alors, scope, en fait, c'est un statut, c'est pas spécifique aux jeux vidéo, c'est un truc assez général. Ça veut dire société coopérative ouvrière de production. En général, c'est plutôt des structures assez importantes et dans lesquelles les gens peuvent être. Les salariés sont des sociétaires et il y a des banques, notamment, qui sont en scope. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de structures. Et dans le cas de Motion Twin, nous, on pousse le truc un peu plus loin. On passe vraiment pour des tarés, même auprès des scopes, hein, en général. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses faisables avec le statut. On a fait à peu près tout ce qui était possible, on va dire.
C'est poussé à l'extrême.
On a poussé le modèle. Voilà. Mais concrètement, le scope, c'est juste un statut, comme les SARL et tout ça, qui nous permet, par contre, d'écrire dans les règles les idées qu'on a, les idées philosophiques, on va dire, qu'on a de façon de travailler. Quoi. Dans une SARL, il y a des choses qu'on ne peut pas légiférer parce que c'est cadré. Quoi. Donc, dans la scope, c'est juste un statut qui nous a permis de passer toutes nos idées égalitaires et notre façon de bosser. Quoi.
Alors justement, comment on travaille dans ce contexte ? On travaille différemment d'un studio classique, très pyramidal, et, j'imagine.
C'est à la fois différent et pareil. C'est-à-dire que les processus, on va dire, d'un point de vue jeu vidéo, la conception du jeu, c'est la même chose. Mmh. Il y a toujours les mêmes rôles et tout ça. C'est juste qu'après, les personnes qui interviennent sont différentes. On peut avoir des personnes qui sont à plusieurs postes à la fois. Ouais. Et des discussions, par exemple, dans mon cas, du game design, c'est-à-dire des règles de jeu. Ça, c'est des choses que je peux avoir avec un graphiste ou une personne du marketing, parce que finalement, on est assez peu nombreux. Ça aide pas mal à cette structure horizontale.
Vous êtes combien ?
Là, on est 8 dans la partie Motion Twin et Indie Catapult, qui est en gros la partie marketing, qui est un ancien Motion Twin qui l'a monté en fait séparément. Et ils sont 4 ou 5 bientôt.
D'accord, ah oui.
Donc on est vraiment très peu nombreux. Donc c'est un modèle qui a ses limites et qui fonctionne grâce à ça notamment. Mais la différence principale, c'est que tout le monde en fait est très investi à peu près à tous les niveaux du projet, que ça soit du game design, du marketing, du graphisme, enfin de la techno à proprement parler, des choses comme ça.
Il n'y a pas de cloison entre les métiers.
Voilà, ouais. Tout le monde intervient à un moment donné, peut donner son avis et a un avis souvent éclairé sur à peu près tous les sujets. Quoi. On essaye en tout cas. Quoi. Mmh. Ouais.
Et donc, juste pour en raconter, tu t'as expliqué un petit peu, mais c'est quoi cette philosophie, justement, que vous avez mis dans les statuts, que vous avez réussi à écrire noir sur blanc, pratiquement
Mais il y a plusieurs choses. Alors, les règles de l'époque, je me rappelle, les choses qu'on avait statuées à l'époque, c'était de se dire, on voulait d'une part une boîte dans laquelle on avait envie de bosser le matin, d'y aller en se disant, ouais, on sera content d'y aller.
Enfin, c'est un plus,
c'est important, quoi. Et l'autre truc, c'était à l'époque, on se disait aussi qu'il fallait qu'on... Du coup, c'est pour ça qu'on est en scope, qu'on avait besoin de règles pour nous protéger de nous quand on serait vieux. Et ça a été très salvateur.
Parce que vous saviez que vous alliez être con après.
Pas forcément con, mais que les envies dans la vie évoluent, qu'on a une famille à un moment donné, que forcément la
que
vision du travail...
Vous risquez de voter à droite après, on sait jamais.
Voilà, enfin, d'acheter une voiture, un Doberman et tout. Ouais. Et en tout cas, voilà, ça c'était on va dire les grandes idées de l'époque, mais en gros ça se traduisait concrètement. On a en fait trois égalités à Motion Twin, qui sont le salaire, le temps de travail et la décision. Et en gros, tout est architecturé autour de ça. C'est-à-dire qu'on sait, on a tout un tas d'outils pour traquer le temps de travail de chacun, enfin, qui nous permettent d'avoir un suivi limite plus important qu'on peut avoir dans d'autres boîtes, parce que nous, on a besoin de transparence. Pour se sentir égal avec son voisin, il faut qu'on ait une totale transparence sur son travail, et sur le salaire, et sur la décision où chacun a une voix dans l'entreprise dès l'instant où il passe associé, c'est-à-dire au bout d'un an, en fait, en général.
D'accord. Et du coup, il y a quand même des arrivées, des départs, il y a un turnover dans cette boîte où on est content d'aller le matin, il y a quand même des gens qui partent.
Oui, bien sûr. Ça, c'était le truc qui était le plus dur à gérer, c'est qu'à l'époque, quand on a monté les premières règles, donc là, il y a 17 ans maintenant, on était plutôt dans l'optique de comment on fait pour que les gens restent, se plaisent et tout ça. Et on avait dit, bon, si un jour il y a des départs, on verra bien le jour même. Alors effectivement, quand il y a eu les premiers départs plus ou moins volontaires, enfin, il y a eu plein de scénarios différents, c'était plus compliqué parce que d'une part, on s'est rendu compte que les ressources humaines, c'était nous aussi, en plus des autres casquettes, quoi. Et que c'est jamais très très drôle d'assumer ce genre de rôle. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que oui, d'un point de vue structure, on avait manqué d'outils. Mais maintenant, on essaie vraiment d'enrober ça et de cadrer tout, y compris les départs, et voilà, que ce soit des départs volontaires ou non, ou des décisions stratégiques, ou des trucs comme ça, qui sont le côté moins rigolo de l'organisation, mais qu'il faut quand même gérer, parce que personne ne le fera pour nous, quoi.
Et donc, en fait, juste pour... là, on va arriver très vite, évidemment, au sujet d'actualité, mais au sein de Motion Twin, et j'ai évoqué un peu le truc, en plus... Alors, déjà, si, oui, il faut parler quand même des jeux avant Dead Cells, parce que Motion Twin s'est quand même fait connaître pour des sacrés... à l'époque, on appelait ça quoi ? C'était viral à l'époque. Ouais, hein. C'est la viralité ludique de Motion Twin, avec des jeux comme La Horde, des jeux comme
La Brute.
La Brute, voilà, oui, ça, c'était. Il y avait une recette, il y a une recette Motion Twin à l'époque en tout cas qui fonctionne. Il y a des sortes de préceptes initiaux comme ça de qui
pas forcément. En fait, à chaque fois qu'on a voulu avoir des préceptes initiaux, en fait, ça a plutôt mal tourné parce que généralement c'est qu'on se retrouve à faire soit une redite, soit quelque chose qui apportait rien et en fait ça se traduisait souvent par le fait que ça fonctionne pas quoi. Je pense à la brute, on a voulu faire une suite avec Mini Troopers, un autre jeu du même genre qui a pas du tout pris, pas du tout fonctionné. En fait, c'est juste qu'on était en train de répéter la recette donc ça allait pas quoi. On a plutôt essayé de garder l'idée inverse, c'est de se dire que quand il y a un succès en général, faire un 2 en général, c'est la petite mort. C'est d'une manière ou d'une autre se dire que ça ne sent pas très bon pour le studio quand on se retrouve à faire ça. Et on a eu beaucoup d'exemples autour de nous, de studios, même de boîtes, je pense toujours à MySpace, mais des structures qui n'arrivent pas à se renouveler et qui finissent par disparaître. Donc on a plutôt essayé d'éviter d'avoir une patte Motion Twin. On a essayé de garder une patte dans le sens qualitativement, de se dire, bon, on fait des game design un peu original ou peut-être inattendu sur le web à l'époque, quoi. Mais par contre, on essaie d'éviter de reprendre des recettes parce que, voilà, comme je dis, à chaque fois qu'on a fait une suite, en général, un 2 de quelque chose, ça s'est pas très bien traduit.
Alors justement, dans votre organisation, le choix d'un prochain projet, comment ça se passe? C'est collégial? C'est une idée qui arrive chez quelqu'un et qui est entretenue, qui est questionnée?
Ça mélange un peu tout ça, ouais. En général, des gens peuvent avoir des idées ou des envies. Tout le monde n'a pas forcément une idée d'un jeu précis dans son ensemble, quoi. Mais par exemple, quelqu'un peut très bien avoir envie, en ce moment on parle beaucoup de narratif, par exemple, dans l'équipe. Quelqu'un peut avoir des envies de projet narratif et auquel cas, ça donnera peut-être l'idée à quelqu'un de quelle forme pourrait prendre un jeu narratif dans ce cas-là. C'est plutôt une démarche comme ça en général. Moi, souvent, je suis à l'initiative de la partie gameplay, c'est-à-dire vraiment les règles et tout ça. J'ai souvent un truc, je me dis, tiens, j'aimerais bien que les joueurs se retrouvent dans telle situation, s'entretuent à 40 dans le cas de Horde ou des choses comme ça. Mais c'est plus des mécaniques qui après sont souvent enrobés par quelqu'un d'autre, qui font qu'à la fin, à force de réunions, de discussions et d'échanges, de tempêtes de cerveau, comme on dit, on arrive à un truc à la fin, le jeu tel qu'il est à la fin.
Ce qui rend d'autant plus impressionnant Dead Cells, c'est justement quand on y joue, il y a une cohérence absolue du jeu, je trouve, entre le visuel, bon, on en reparlera après peut-être de Dead Cells, mais il y a une cohérence qui fait qu'on a l'impression d'une unité dans le développement. Enfin, on n'a pas du tout l'impression que quelque chose de...
Ouais. C'est plutôt l'élagage en fait qui donne cet effet là. Là on a un exemple, on est en plein dedans parce qu'on est en train de travailler, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est en train de bosser sur un DLC qui ajoute de l'histoire au jeu et qui va rajouter
une narratif
fin,
du coup, alors,
plutôt orienté un peu plus, pas beaucoup plus narratif mais en tout cas qui donne une fin alternative au jeu et puis quelques explications. Et en fait on s'est rendu compte assez fortuitement, je devrais pas le dire, mais on s'est rattrapé aux branches et en fait on a un peu inventé le scénario au fur et à mesure, mais on arrive à un truc qui loupe parfaitement avec le tout début du jeu et avec le truc d'il y a un an. Et donc c'est plus cette forme là en fait. On a plutôt un développement très itératif et par contre on élague de manière assez drastique tout ce qui dépasse quand ça va pas en fait.
Il y a plein de choses qui sont jetées, qui sont mises de côté,
voilà,
et
on expérimente beaucoup et à la fin ça donne un aspect cohérent entre guillemets, mais c'est surtout une cohérence parce qu'on taille vraiment dans le gras quoi. Qu'à la fin c'est tout lisse, c'est sûr, mais
j'ai lu j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais quand même avant Dead Cells, mais je pense que c'est important d'en parler parce que je pense aussi que ça va finalement Dead Cells, c'est aussi l'héritage de ça. C'est tu participes à énormément de game jam en fait, et notamment avec des jeux comme Badass Inc, c'est ça, qui est issu de game jam, comme Refugee, comme voilà. C'est pourquoi cet attrait pour la game jam? Après, ça semble hyper logique par rapport à ce que tu as raconté tout à l'heure sur ton enfance et le fait de créer, toujours créer tout ça, mais t'as trouvé ton univers, ton milieu en fait.
Ouais, moi les jams, ce que j'aime bien, c'est que... Alors, juste une petite parenthèse sur ça, c'est que pour des gens qui voudraient faire du jeu vidéo, les jams, c'est le truc que je recommande systématiquement avant une école, avant quoi que ce soit, quoi. Les jams, c'est vraiment, d'un point de vue perso et professionnel, entre guillemets, j'ai l'impression qu'une jam, c'est un condensé en 48 heures, une semaine, vraiment d'un projet de A à Z, vraiment avec toutes les problématiques d'un projet de jeu vidéo, enfin, il y a tout, quoi, dedans.
Les mains dans le cambouis, quoi.
C'est les mains dans le cambouis, et puis on a un vrai aperçu de ce que c'est d'un jeu sur lequel on bosse 2 ans ou 48 heures, c'est la même chose, en fait. Il y a vraiment tous les mêmes cycles, tout est dedans, quoi. Et moi, ce que j'aime bien justement dans les jams, c'est ce côté, comme c'est à court terme, et qu'en plus, de toute façon, j'aurai interdiction de bosser dessus après, c'est un peu l'idée de la jam. Enfin, des fois, il y a des gens qui font une suite, mais je m'interdis un peu cette idée-là. Ça me permet aussi de faire toutes les petites idées un peu débiles que je peux avoir, ou la petite envie. Badass Inc, c'est né juste, c'est un jeu de un point and click action, un peu un mélange entre un point and click et un jeu à la flashback. Et c'était juste venu de l'idée que j'avais envie de faire un personnage avec un cycle de marche, en fait, une animation de marche. Parce que c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait, que je savais que j'étais pas très bon en anime à ce moment-là et tout. Je suis toujours pas très bon en anime, mais je m'étais dit tiens, j'aimerais bien avoir un perso un peu classe en trench coat, quelque chose qui a une anime de marche un peu sympa. Et c'est devenu très progressivement, bon, ça se passe dans les 48 heures, donc
très vite,
on va dire dans la matinée, ça devient un personnage félin. Puis tiens, je me dis tiens, cyberpunk c'est cool, et puis du coup cyberpunk, enfin ça appelle tout le reste en fait en cascade quoi. Mais ça part souvent d'une idée, d'un truc que je ferais pas forcément sur un gros projet. Je me dis tiens, j'ai pas envie de faire un jeu de un point and click par exemple nécessairement, mais le format jam me permet de le faire parce que je me dis bah, en 48 heures j'en aurais fait un et je peux y exprimer ou expérimenter 2-3 idées que j'ai en tête assez librement quoi.
Allez, c'est le moment de parler du lourd de l'actualité. On va écouter un morceau issu de la bande originale de Dead Cells. C'est Ends of King, je crois, c'est le morceau ou quelque chose
soit d'autre. C'est la musique du boss, soit la musique du trailer, je ne saurais plus dire. J'avoue que je les confonds un peu vraiment. Quoi.
Et dans un professionnalisme absolument incroyable, je n'ai pas pris le nom des morceaux, c'est un peu ridicule. On va parler de cette musique, on va parler du sound design quand même. C'est une des caractéristiques assez impressionnantes. Côté,
quand on lance le jeu, c'est le truc...
Non mais sérieusement, on a envie de voler sur un dragon quand on entend cette musique. Non, je sais pas vous.
Bah
non,
j'ai un côté épique, quoi.
Il y a un côté qui porte. Ouais. C'est quelque chose, quoi. C'est un point hyper important, en fait.
Ah ouais, complètement. Alors je prêche pas ma paroisse parce qu'au départ, moi, je voulais pas forcément de musique sur le jeu. Enfin, dans les réunions, je défendais plutôt que je voulais un truc plutôt à base de bruitage, d'ambiance et tout, quoi. Et c'est le musicos qui a beaucoup insisté pour dire ah, si on veut quand même mettre une musique. J'avais peur de la répétition, de la boucle et de la répétition, en fait. Et surtout que c'est un jeu où on meurt, on recommence au début en boucle et que ça peut devenir lassant.
Donc, il faut une bonne musique.
Il faut une sacrée bonne musique, ouais. Mais justement, le musicien Johan a pris ça vraiment comme un challenge et là. Hyper bien embrassé pour le coup quoi. Et il nous a fait des trucs on avait quelques idées d'ambiance, on pensait beaucoup à la guitare sèche, aux instruments, à la Diablo, ce genre de trucs là, mais ça s'arrête à peu près là les guides. Et après lui il était vraiment en mode freestyle sur l'ensemble du jeu et il nous a sorti des trucs complètement incroyables quoi.
Cette bande originale est dingo.
Ah bah elle est folle.
Non mais c'est et c'est quand même une marque. Enfin, c'est pas n'importe quel jeu qui a une bande originale de dingo, je trouve. Enfin, je dire non mais
c'est un tout en fait pour moi Dead Cells, hein. C'est la réal graphique, c'est le gameplay évidemment, mais la musique aussi. Enfin, il y a vraiment un tout, je parlais de cohérence tout à l'heure, mais c'est vraiment une sensation d'une dynamique commune du jeu, je trouve, qui fait qu'on lâche pas quoi. Enfin,
on va commencer
super addictif.
Ouais, on va commencer par un peu le what the fuck de l'histoire de Dead Cells.
Ouais, c'est un rescapé, je crois.
Bonjour, on va faire un tower defense en free to play sur mobile.
C'est ça.
Ok.
Multijoueur en plus, voilà. Tant qu'à faire.
Ouais, sérieux.
Un jeu solo.
C'est ça. Mais en fait, au début, c'était censé être une suite de Horde dont on parlait tout à l'heure, une sorte de suite spirituelle de Horde. On voulait cet esprit de gens qui sont ensemble, mais qui de toute façon vont tous s'entretuer à la fin. Et donc l'idée de départ, c'est que les gens soient enfermés dans une baraque et devaient protéger la maison pendant qu'ils se faisaient attaquer par des zombies. Ça, c'était le point de départ.
On est très loin.
Et en fait, à l'époque, on avait fait une démo solo de ce jeu-là. Pour la Gamescom, je crois, il me semble. Et donc, c'était pour pouvoir le montrer sur les salons. On voulait une démo solo sans le multijoueur et tout. Quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était Nicolas Canas qui m'a monté Shiro Games, qui est dans une autre boîte, un ancien de Motion Tune également, et qui nous disait, mais votre jeu en solo, il est rigolo, pourquoi vous ne faites pas un jeu solo? Et au début, on prenait ça à la rigolade, et puis en fait, on s'est dit, ah merde, il a raison. Et en fait, ça a été vraiment, bah, là, je parlais de trancher dans l'art, c'était vraiment le truc où on a beaucoup sabré le projet.
Ça n'a pas de facile de dire. On recalibre complètement le projet entièrement en fait.
En fait, ça me choque presque dans l'histoire d'un jeu. On prend pas un roguelike de fantasy. Enfin,
En plus, c'était, ça se passait, le jeu initial se passait dans les années, ambiance années 70 avec des Cadillacs.
Non, mais ça
part de très loin. Des dinosaures aussi, non?
Oui, on en a parlé.
Ouais, c'est comme si on disait Red Dead Redemption 2, ben, au début, c'était un platformer, quoi.
Ça m'étonnerait c'est pas de... trop. Hein. En fait, il y a quand même y a des choses qui sont restées de l'essence de départ, quoi. Mais c'est juste qu'en fait, pour nous, ça a plutôt été un gros soulagement quand on a fait ça, si tu veux, qu'on a commencé à sabrer d'accepter l'idée que le projet n'allait pas être celui qui était décidé au départ. C'était vraiment un gros soulagement parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait enlever tout ce qui était nul dans le jeu initial et vraiment garder l'essence, enfin ce qui nous avait plu, quoi.
Et finalement, là, tout le monde est d'accord dans le studio? Où il y a des discussions sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on...
C'était entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a vraiment décidé le truc, c'était le CNC. Parce qu'on avait fait une demande d'aide au CNC, Centre National du Cinéma, pour ce projet. Et le projet était à ce moment-là un peu dans le frigo, en mode, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va devenir. Voilà. Et on attendait du coup la réponse du CNC, et qui a accepté de nous financer une partie du projet. Et ça, c'était le déclencheur, on va dire, l'aval extérieur, qui a permis de remettre le projet sur les rails à ce moment-là. Et après, en interne, on nous a laissé, l'équipe à ce moment-là, on nous a laissé prototyper un peu à quoi ça pouvait ressembler si on sabrait ce qui ne marchait pas. Et en fait, après, très rapidement, tout le monde est arrivé au constat que oui, bon, il n'y a pas chier, c'était mieux, quoi. C'était quand même beaucoup mieux.
Mais quand même, pour Motion Twin, on change complètement, parce que moi, ayant travaillé sur les jeux, même les jeux navigateurs, c'était un peu ma cam pendant assez longtemps. Se dire on va passer d'un modèle de jeu free-to-play, viral, basé sur le multi, basé sur à un jeu qu'il va falloir vendre. On change complètement l'image du studio, en fait.
Ouais, c'est ce qui a été le plus dur à vendre en interne, et ce qui a provoqué vraiment une grosse restructuration de Motion Twin à l'époque, il y a 3 ans maintenant. C'était l'idée de se dire, bon, Motion Twin est une boîte web à la base, dans le web, un petit peu mobile, mais bon, on a fait un passage éclair dessus. Et c'était vraiment une boîte web, free to play, et de se dire, oula, on va changer de modèle économique, de modèle stratégique, et de se dire, bon, maintenant on va partir sur du buy to play, donc du jeu à l'achat unique, quoi, sans micro-paiement dedans. Mais bon, en même temps, on se rendait compte que si on voulait continuer à faire du free-to-play, il fallait repasser par la case mobile, et on n'en avait pas du tout envie, quoi. Enfin, ça nous plaisait pas, ça nous plaît toujours assez peu aujourd'hui. Et donc on s'est dit, et en plus la boîte avait des difficultés financières à ce moment-là, parce que le déclin du web était ce qu'il était. Et donc on s'est dit, bon bah, quitte à faire peut-être un dernier jeu, autant le faire sur une plateforme qui nous est chère aussi en tant que joueur, en tant que vraiment développeur et joueur, quoi. Et on s'est dit, bon bah, on va partir sur Steam et tout ça, quoi.
Donc en fait, je résume, hein. Donc la boîte, elle s'est montée pour faire du web en 2001. Et elle arrive sur Steam pour la première fois, elle se lance en 2015.
En pleine Indie Apocalypse.
Le truc où il y a 2300 jeux vidéo qui sortent par semaine sur cette plateforme. Ah bah ouais, non mais on va y aller. Non, c'est le bon moment. Je sens, il y a un truc, il y a un frémissement, c'est le bon moment pour y aller.
On avait en fait cette grosse discussion sur cette Indie Apocalypse. On en a toujours plein, en fait. On est les premiers à dire qu'en fait, c'est de la grosse connerie, hein, très honnêtement, l'Indie Apocalypse. Il y a des titres qui sont vautrés. Il y en a quelques-uns qui étaient très attendus, qui se sont vautrés. Comme ils étaient attendus, ils ont fait beaucoup de bruit, mais dont les qualités, quand on les prenait en main, c'était pas ouf, quoi. Et la réalité, c'est que je pense qu'en fait, il y a plus que l'Indie Apocalypse, c'est les attentes des joueurs se sont mises à grossir, en fait, sur les jeux indés. Et du coup, il y a eu des jeux qui ont fait des buzz assez improbables, et du coup, quand ils sont sortis, on s'est rendu compte que c'était pas si terrible, et ça fait beaucoup de bruit, en fait. La réalité, c'est que je pense que les jeux qui mettent de l'effort qualitativement, les gens qui mettent vraiment de la qualité dans leur jeu, globalement, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien, quoi. J'ai un seul contre-exemple aujourd'hui là, qui me vient en tête, c'est The Messenger, qui vient de sortir très récemment, qui fait pas des revenus, enfin en tout cas qui n'a pas l'air de vendre énormément, mais pourtant le jeu est très qualitatif. Mais globalement, par contre, j'ai assez peu d'exemples de jeux vraiment très qualitatifs qui n'aient pas fonctionné. De trucs où je me suis dit, ouais, celui-là,
c'est peut-être parce que t'en as jamais entendu parler.
C'est possible que j'en ai pas entendu parler, ouais.
C'est un jeu très qualitatif qui a fait 8 ventes.
Ouais, c'est possible. Mais en général, t'en entends parler dans le milieu, parce que ces jeux-là, et c'est des jeux de niche souvent, et c'est ceux-là qui circulent dans les Discord ou les milieux, on va dire. T'en entends souvent sur le Twitter des quelques gros indés, on va dire, t'en entends parler, quoi. Mais après, est-ce qu'ils se traduisent en. Ils touchent le grand public et qu'ils se vendent? Ouais, je sais qu'à l'époque, on en avait beaucoup cherché pour essayer de se rassurer sur ça, et en fait, on s'était rendu compte que, que les jeux vraiment qualitatifs étaient finalement, se vendaient correctement, quoi.
Mais à ce moment-là, on intègre quand même deux contraintes énormes. C'est un, il faut faire un très bon jeu. C'est pas rien, quoi.
C'est un prérequis.
Ouais, mais
surtout en petite équipe. Enfin,
oui, et surtout, on est habitué à faire du jeu navigateur. Il faut faire un très bon jeu PC dans le niveau de qualité attendu. En plus, on prend aussi le genre du roguelike, ce qui est un truc où il y a quand même de la concurrence, il y a quand même, bases.
Comment est venue la mécanique rogue? C'était une volonté très tôt ou c'est...
Non, c'est venu du truc de départ, c'est-à-dire quand c'était un tower defense, comment il était pensé free to play, on a toujours eu cette logique de rejouabilité, de se dire on n'avait pas de jeu avec un début et une fin, en fait. On n'avait jamais fait ça à Motion Twin, ou très peu en tout cas. Et on a toujours eu cette idée, de toute façon, un jeu doit être rejouable et tout. C'est plutôt, on s'est demandé quand on est passé sur PC, est-ce qu'on garde cette idée, qui du coup nous a amené sur du roguelike naturellement, quoi, ou est-ce qu'on part sur l'idée de faire un jeu avec un début et une fin, plutôt un Castlevania classique, quoi. Et en fait, on s'est dit quand même, notre ADN était vraiment dans ce côté-là, on avait pas mal d'expérience dans comment faire de l'aléatoire, du procédural, comment faire de la rejouabilité, comment donner des choses, des gains très progressifs aux joueurs, tout ça. Enfin, on avait quand même une expérience free-to-play, et on s'est dit, sur ce jeu-là, ça serait con de pas s'en servir, quoi.
D'où le côté addictif du jeu, en fait. Ça vient de ces racines free-to-play.
On n'est pas forcément très fiers, mais oui.
En tout cas, ça marche, c'est clair.
On comprend le rythme de jeu d'un joueur, et on essaie de le réappliquer, de savoir la fréquence des gains, tous ces trucs-là.
Et sans être frustrant, il y a toujours le dosage, on perd, mais on y revient, parce qu'on met jamais la mécanique du jeu en par défaut, c'est toujours on s'en veut à soi parce qu'on a pris une mauvaise décision ou autre, mais
ouais, c'est ça.
Et donc voilà, il faut en plus donc d'une part faire un grand jeu, un bon jeu, et en plus il faut faire du marketing, il faut le faire connaître, c'est parce que c'est aussi les deux éléments, en fait.
Ouais. Alors à l'époque, le marketing à Motion Twin, fallait pas trop en parler parce qu'on était vraiment pendant les 15 ans on avait fait 100, et notamment avec La Brute ou des jeux comme ça, on avait fait notre propre viralité, donc acheter de la pub, des choses comme ça, ou mettre de la pub sur nos sites, on le faisait pas parce qu'on n'aimait pas ça et qu'on était très très vindicatif sur le sujet. Et en fait, à l'époque, on a rencontré et recruté Steven Philby, qui est aujourd'hui celui qui dirige Indie Catapult, la partie marketing de Motion Twin, publishing, marketing, tout ça. Et c'est lui qui avait vraiment plutôt apporté une espèce de vision un peu fraîche du truc, qui nous avait vraiment aidé à comprendre que oui, on pouvait faire du marketing, que c'était d'une part pas sale, aujourd'hui, là, maintenant je suis complètement en phase avec cette idée, mais aussi qu'il y avait moyen, même dans le marketing dit traditionnel, presse ou marketing autre, quoi, il y avait moyen de faire des trucs un peu différents, d'aborder les choses un peu différemment, et que, il apportait vraiment des tonnes d'idées, quoi. Donc à l'époque, il nous a vraiment convaincus que, de toute façon, c'était indispensable quand on faisait du jeu PC, qu'il fallait faire du marketing, mais que ça voulait pas dire qu'on allait se corrompre pour autant, mais qu'on pouvait aussi le faire à notre sauce également, quoi.
J'ai vu que donc Dead Cells c'est sorti en bêta, en early access.
En early access.
C'est peut-être un moment important quand on le pose en early access. Ça se passe comment concrètement? On appuie sur un bouton, il arrive, il est sur la plateforme et on attend.
Ouais, c'est à peu près ça. Alors après, là pour le coup, Steve avait vraiment fait ses devoirs. Et il s'était beaucoup. Il n'était pas du tout du jeu vidéo à la base, mais il s'était vraiment beaucoup renseigné et formé avec nous. Et donc lui essentiellement sur la partie marketing, sortie, tout ça. Et en fait, on avait eu la chance d'avoir une info à l'époque qui était, enfin c'est une info, c'est pas vraiment très secret, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'un early access, c'est comme une sortie, en fait. La réalité, c'est quand un jeu, si on prend le cycle de vie d'un jeu, l'early access, c'est sa réelle sortie, en fait.
C'est vraiment pas anodin.
C'est vraiment si on shoot l'early access, en général, c'est dur de se rattraper aux branches après. Et parce que l'early access, c'est une démo payante, en quelque sorte, du jeu, et le moment où le jeu sort vraiment, en fait, cette étape, c'est très
analogique. C'est une réplique presque du moment de l'early access.
Et ça n'a pas vraiment d'impact, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pic de vente très marqué à ces moments-là.
Gros, au moment de l'early access.
Quand on sort l'early access, c'est comme si on sortait le jeu. Donc du coup, on le savait ça avant, et on a essayé vraiment d'aborder cet early access comme une sortie, avec tout le marketing et toute la com qu'on pouvait à ce moment-là, quoi.
J'ai lu ou j'ai entendu que l'early access a aussi été décidé parce que Motion Twin n'était pas hyper en forme.
Ouais, complètement. C'était donc cette année-là, je me rappelle, on savait qu'on était dans le rouge l'année suivante en termes de revenus et tout ça.
Pardon, c'était quand l'early access?
On est 2018, donc ça devait être 2016. Si je dis pas de bêtises, 2016 peut-être, oui, c'est ça.
2017, non, début 2019.
2017,
pas...
ouais, je sais plus, ouais, j'avoue que je me perds un peu. Et c'était en mai, donc non, ça devait être 2017 alors. Et oui, on était un peu dans le rouge parce qu'on savait qu'en gros, si on commençait pas à avoir d'autres sources de revenus à ce moment-là, on allait vraiment avoir du mal à raccorder les deux bouts. Et donc, l'early access, mais c'était à la fois une nécessité, mais on savait qu'il fallait surtout pas se précipiter parce que pour le coup, il y avait l'Indie Apocalypse et des exemples de jeux qui avaient fait grand bruit en early access, No Man's Sky pour ne citer que lui, quoi. Et qui ont fait beaucoup de bruit et qui sont clairement partis dans le mur à cause de ça. Et donc, on savait que voilà, on était pressé, mais clairement, il fallait quand même pas qu'on se dépêche de trop. Et là, pour le coup, c'est aussi, là aussi Steve qui nous a pas mal aidé à bien gérer ça tout en nous, en continuant à faire le dev du jeu, quoi.
Vas-y. On apprend quoi du coup pendant l'Early Access, qui dure quand même assez longtemps? On apprend quoi? On écoute beaucoup, on note, j'imagine, les retours.
En fait, ça s'est passé comme on aurait imaginé idéalement, c'est-à-dire qu'en fait, l'Early Access, comme je disais, on le considérait comme une sortie. Donc le jeu, il y avait ce qu'on appelle une vertical slice, le jeu était relativement complet et jouable de bout en bout, c'est juste qu'il manquait de contenu à ce moment-là. Mais le jeu était globalement jouable. Et on s'était dit, normalement, l'Early Access, on avait surtout annoncé une des règles importantes, c'est d'annoncer au départ combien de temps ça va durer, pour que les joueurs se disent pas que ça va durer une durée indéterminée.
Ouais, ou ils peuvent décrocher et dire...
Alors que là, si on leur dit, bon, on s'était engagé à un an, on a fait un an et demi, mais en leur expliquant bien, mais on n'a pas dépassé. Enfin, plus que ça, quoi. Et en fait, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'en gros, du début de l'Early Access à la release, on soit à peu près sur les rails de ce qu'on avait décidé. Le jeu allait juste avoir du contenu supplémentaire, pas trop dévié de sa courbe, de sa mécanique.
Juste enrichir la base.
Voilà. Et en fait, dès le premier mois, il y a eu tellement de retours, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, au départ, parce que le jeu a énormément fonctionné au tout départ. On a eu énormément de retours sur les forums et tout, et des trucs hyper pertinents, en fait. Des trucs que j'avais pas vu depuis assez longtemps, à part sur le web.
Du genre, par exemple.
Des choses qui étaient des problèmes d'équilibrage, ou même des idées de choses qui n'allaient pas, des concepts même dans le jeu qui n'allaient pas, ou des problématiques diverses, on va dire, de règles, de graphiques.
Des choses qu'on ne voit plus forcément quand on est dans le guidon et qu'on est...
Ouais, ou même simplement un truc où tu dis tiens, ça c'est bon, ça fonctionne, et en fait quelqu'un te propose une idée et elle est mieux, et donc tu te dis tu serais con de la prendre, quoi. Et en fait, on était vachement surpris par la quantité de feedback hyper intéressant, négatif ou positif, il y avait les deux, et souvent les négatifs étaient les plus intéressants d'ailleurs, et en fait on était surpris nous-mêmes par la quantité de choses que ça nous a amené à changer dans le jeu. Énormément de trucs. Le jeu a vraiment... On aimerait bien ressortir la version 1.
Est-ce qu'il y a une mémoire d'ailleurs du jeu comme ça?
On aimerait bien le release, la version 0, la version Early Access.
Elle est très différente alors?
Ah ouais, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. J'ai rejoué il n'y a pas très longtemps. Alors, le jeu, fondamentalement, c'est le même. Mm-hmm. On saute, on tue des monstres, hein, c'est à peu près ça. Mais dans l'équilibrage, dans les mécaniques, le contrôle, il y a plein de petites choses qui sont en plus. Et c'est deux jeux quasi... Enfin, très différents.
Ouais. Ah, moi, je me souviens que j'y avais joué sur Steam, hein, à l'époque où il n'était pas encore sur console, et puis après j'avais un peu laissé tomber, j'étais passé à autre chose. Et là, cette ressortie sur... Enfin, quand il est sorti sur console cet été, sur Switch, tu te dis, waouh! Il est fini. Enfin, il y a un truc, on est sur une sorte de cohérence générale, globale.
Ouais, c'est ça.
C'était ça l'objectif, en fait, de...
Ça l'est devenu, en fait, par le constat, c'est un peu, on a sorti le truc en early access, comme je disais, on pensait être sur les rails, et en fait, on s'est retrouvé à raffiner et à itérer vachement le projet, à élaguer et à donner cette espèce d'aspect lisse dont je parlais tout à l'heure, là, au projet, justement parce qu'on avait des tonnes de retours hyper qualitatifs et des choses qui ont été jetées en route parce qu'on s'est rendu compte qu'une bonne idée de départ ne l'était pas en pratique, quoi.
T'as un exemple d'idée qui a été écartée?
Le multijoueur, ça c'est la première qui me vient. On l'avait gardé dans les réserves au cas où, et pour l'instant on l'a vraiment laissé de côté parce que le jeu s'y prête pas. Mais après, non, c'est des choses un peu pointues dans le jeu, des mécaniques, des façons de faire, l'évolution du personnage, une des règles traditionnelles de, je sais pas si vous voyez dans Skyrim, les monstres s'adaptent à toi au fur et à mesure du jeu, donc ça s'appelle le scaling, en fait, des monstres. Et en gros, on avait ça dans Dead Cells, et là je suis en train de le virer, ça va, mais c'est un truc que quasiment dès le départ de l'early access les joueurs m'ont fait remarquer que effectivement ça servait à rien dans notre cas, enfin différents trucs, quoi, et qui pourtant était là, ça fait partie du roguelike, de l'idée que le jeu s'adapte à ton niveau un peu, mais on va le laisser tomber parce que plein d'idées intéressantes et que voilà, quoi.
Comment... Enfin, il y a quelque chose d'assez magique, hein, quand on joue à Dead Cells, c'est que c'est un jeu haut de gamme. C'est pas n'importe quel jeu indé, c'est pas n'importe quel roguelike, il y a une sorte d'essence pure, enfin je sais pas, j'ai pas envie d'en faire une hagiographie, un tableau absolument, même si j'ai un rapport très 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 positif avec Dead Cells, de ton point de vue de créateur, c'est quoi le sentiment d'être arrivé à à proposer ce genre d'expérience-là avec ces, tu dois avoir quand même des retours plutôt positifs aujourd'hui. Enfin, j'aimerais bien comprendre le truc d'accomplissement ou le truc, maintenant on va passer au jeu suivant ou alors il y a encore 12 milliards de choses à améliorer. Où t'en es par rapport à ton rapport à toi avec Dead Cells?
On va dire sur le côté plateforme, parce que j'aime beaucoup les jeux de plateforme en général, et Hammerfest dont je parlais, c'était un jeu de plateforme aussi. Et de ce côté-là, je me dis, bon, ça c'est check, c'est fait, j'ai fait un bon jeu de plateforme dans ma vie, et on va dire au niveau mécanique et feeling de déplacement, de ce qu'on appelle le traversal en anglais, de déplacement dans les plateformes, ça, au moins c'est check.
Tu sais faire un personnage qui marche maintenant.
Voilà, et en plus je pourrais l'animer à moitié, à peu près, raisonnablement, on va dire. Mais de ce côté-là, ça, c'est, pour moi, c'est cool, et ça me donne, aujourd'hui, tu vois, j'aurais moins l'envie de faire un autre jeu de plateforme, juste parce que je me dis, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question plateforme, quoi. Y a d'autres trucs à faire, mais en tout cas, rien qui m'excite au point de me dire, tiens, j'ai envie de faire un autre jeu sur ce thème-là. Par contre, sur la partie équilibrage, tout ça, ça, c'est un boulot sans fin, en fait, la partie difficulté du jeu, plaisir de jeu, frustration et tout, c'est un truc qui peut être affiné pendant des siècles et des siècles. C'est la partie sur laquelle je bosse en ce moment, justement. Et ça reste un boulot un peu piège, parce que ça s'arrêtera jamais, et il faudra bien qu'à un moment donné que je lâche le truc en disant, bon, là, c'est bon, c'est ma version
finale. C'est quoi, c'est multiplier les templates possibles pour les joueurs, les combinaisons.
Ouais, voilà,
j'ai lu que vous aviez été assez inspiré par Binding of Isaac, sur sa capacité comme ça à multiplier les stratégies de joueurs pour...
C'est un peu l'idée. Alors, si on devait faire l'analogie à Binding of Isaac, qui reste un modèle positif et négatif pour beaucoup de choses, quoi, ça serait pour éviter justement l'écueil de Binding of Isaac sur le côté, le nombre de strats qui servent à rien, en fait, qui sont clairement mauvaises dans le jeu. Et là, je suis plutôt en train d'essayer, tu vois, par exemple, je refais très récemment une passe sur à peu près tous les équipements du jeu pour essayer de prendre tout ce qui était pourri et de le rehausser, en fait. Et de m'assurer... En fait, mon problème aujourd'hui n'est pas tant...
Des armes, des
compétences, de tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui est pénible. En gros, moi, ça me va que le jeu soit aléatoire. Ce qui m'embêterait, c'est que sur X-Run, t'en fasses certaines qui soient vraiment pourries parce que tu trouves des items qui sont clairement identifiés comme pourris dans le jeu. Et ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de corriger aujourd'hui, quoi. J'ai plutôt cette frustration-là de me dire, bon, j'aimerais que quoi que tu trouves, ça soit drôle, quoi. Et ça, c'est, bon, c'est un boulot sans fin, potentiellement.
Ouais. C'est quoi le truc dont t'es hyper fier? Enfin, le détail, le pixel du jeu que tu kiffes le plus?
Alors, moi, c'est vraiment les contrôles. C'est vraiment le truc sur lequel j'ai passé une grosse partie de mon temps, c'est les contrôles de déplacement, tu sais, de plateforme. J'en parlais récemment sur une conf, justement, en montrant, j'ai une touche de debug qui me permet de désactiver tout ce que j'appelle les helpers de contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu sautes entre deux plateformes, il se passe tout un tas de trucs qui font que je triche et que tu arrives sur la plateforme où tu voulais, alors que tu aurais pas dû. Et en fait, quand tu le désactives, c'est hyper flagrant à quel point tout le jeu devient pénible, en fait, devient les doubles sauts qui à un pixel près te permettent pas de monter.
À l'ancienne,
que les gens font toujours aujourd'hui, et ça, c'est le à l'ancienne, bon, c'est pas forcément très judicieux, quoi. Et ça, c'est vraiment la partie sur laquelle je suis le plus fier aujourd'hui, de me dire, quand tu les actives, c'est helper, d'un seul coup, le jeu, tu peux le traverser en mode ninja, et t'as l'impression que t'arrives à faire tout ce que t'avais en tête, sans que le jeu, tout le monde trop. Un exemple, tu vois, c'est un petit détail, c'est par exemple quand tu tapes avec une épée, par exemple, s'il y a personne devant toi, mais qu'il y a un mec derrière toi, le jeu te retourne gratuitement. Et ça, personne ne l'a jamais remarqué. Enfin, c'est vraiment un détail planqué. Ouais. Parce que toi, quand tu joues, tu vas appuyer sur gauche de toute façon pour te retourner. Ouais. Donc, ton cerveau s'est dit, ah, j'ai réussi à me retourner taper, donc je suis content. En fait, j'ai triché parce que tu t'es retourné bien trop tard et que ça allait louper.
Ah, je suis pas assez bon ça, en fait. Alors,
ouais. Voilà. Mais c'est ce genre de petits détails que les gens perçoivent pas forcément et qui font que t'as une sensation quand même d'accomplissement quand tu joues. Tu te dis, tiens, c'est facile à prendre en main, quoi.
Mais ça, moi, je me suis fait cette remarque, c'est sur les doubles sauts notamment. C'est à un moment, ça devient hyper clair. C'est la plateforme que tu peux atteindre avec un double saut. Alors, tu sais pas trop comment.
Ouais, c'est vrai.
Et la plateforme qui, bah, c'est
pas, il y a un autre chemin.
Et en fait, du coup, tu vas pas réessayer comme un sourd ton double saut parce que, ah non, mais j'ai arrivé au pixel près. Non, mais t'avances, ouais, c'est pas le chemin, quoi. sur Dead Cells, de toute façon, on aurait pu en parler des heures. De toute façon, je ne peux que conseiller aux auditeurs
de s'y mettre. Peut-être un mot sur les versions consoles. C'était une étape, j'imagine, quand même, d'arriver sur les consoles.
On parle des versions consoles, là, oui, puis de la version PC.
Et en fait, les consoles, c'était venu, alors c'était quasiment un outil marketing pour nous, c'était pour marquer le coup, en fait, de la sortie, parce qu'on savait que la fameuse release, le moment où tu passes de l'early access à la version publique, sur Steam, c'est qu'un bouton, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment il y a pas d'effet, tu vois.
Pas d'événement.
Pas d'événement, et donc du coup, ça représente. Ça, c'est pour ça que souvent le passage Early Access à la sortie, en fait, tout le monde s'en fout concrètement, quoi. Et alors, du coup, les sorties console, bon, c'était un peu un challenge parce que c'est ça qui a mis du retard dans le projet, les 6 mois. C'est qu'on s'était dit, bah, on aura un effort de com produit par cette sortie console.
Qui est daté.
Voilà, moment, et qui du coup crée un événement et du coup crée un effet de sortie, en fait, de sortie du jeu. Et ça a été assez salvateur parce que c'est, je pense, c'est ce qui fait que le jeu, quand il est sorti, a refait parler de lui et tout ça, parce que les gens n'ont juste pas parlé du passage de la version 0.9 à 1.0.
c'est voilà, clair. C'est ouais, ça permet de toucher un autre public aussi, et ça en permet plus de toucher, du PC. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeu console.
Et en fait, ouais, clairement, quand on a commencé à développer sur Switch, notamment, on s'est vraiment rendu compte, on savait que c'était un jeu pensé manette, donc clairement, l'ADN console était là, quoi. Mais par contre, on n'avait pas eu encore trop cette intuition que le jeu allait être bien pour du portable, en fait. Ouais. Et en fait, on s'en est rendu compte assez rapidement au moment où le jeu a été fait comme ça, que en fait on avait plein de trucs qui avaient été taillés mais qui venaient de notre ADN de joueur web, dans l'optique les gens n'ont pas le temps de jouer. Donc on fait un jeu pour que les gens jouent alors qu'ils n'ont pas le temps, et donc dans des formats d'une heure, des trucs assez cadrés ou voire une demi-heure et tout. Et en fait on s'est rendu compte, bah tiens merde, ces coups de bol ça colle parfaitement à la Switch, quoi, et que ça rentre dans ce format de tu as un trajet en train, tu peux faire un run ou deux et ça rentre dedans,
ça marche, quoi. Bien avec le métro,
avec le métro,
je voilà. promets, ça marche hyper bien.
C'est vrai que visuellement il est claquant sur Switch, il est vraiment...
C'est dingue. Moi, il y a un truc aussi qui m'a vraiment marqué dans Dead Cells, c'est que c'est un jeu qui pouvait être fait que par un très très gros joueur, ou des très très gros joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'expert... Enfin, c'est un jeu qui se... Comment on dit ? C'est un jeu qui monte sur l'épaule des géants, en fait. C'est cette idée-là qu'il ne part pas de rien, il monte sur l'épaule des géants, il s'inspire des jeux avant pour aller encore plus haut, en fait. C'est quoi ton expérience de joueur ça nourrit comment ta création ?
Mais on a vraiment une tonne de... Enfin, tout le monde est vraiment très joueur à Motion Twin, mais sur des jeux très différents. C'est ça qui est rigolo, c'est que moi, je suis par exemple très fan de Diablo 3, je peux être très fan de Dark Souls, mais on s'est dit qu'on mettrait un pot à Motion Twin, on mettrait une pièce à chaque fois qu'on dit Dark Souls. mais ouais, Dark Souls, pour beaucoup d'exemples et tout. Mais en fait, il y a des personnes qui seront peut-être beaucoup plus jeux de stratégie, ou jeux narratifs, ou d'autres choses. Mais tout le monde est très joueur. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que justement, c'est les apports de chacun qui tire un peu la couverture de son côté sur les genres qu'il aime bien, qui ont fait en fait que le jeu a pris un peu différentes formes, quoi. Ce qui était plus compliqué finalement, c'était de s'assurer que ça parte pas dans tous les sens et que ça devienne un truc hirsute qui ressemble à rien, mais que ça tienne la route, quoi. Mais je pense que pour le coup, ouais, cette expérience de joueur, ça nous a vraiment aidé à rajouter les petits trucs et à essayer de prendre le meilleur de chaque domaine autant que possible, quoi. Et dans les roguelikes, pour le coup, il y a beaucoup de roguelikes, mais des bons roguelikes platformers avec une vraie bonne mécanique de plateforme, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, quoi. C'était à l'époque de Rogue Legacy, qui était un peu le plus grand représentant, et Binding of Isaac, mais ils n'étaient pas nombreux, quoi.
Juste avant la conclusion, on va quand même, parce que j'en avais mis deux, et elle est vraiment très très bien, on va écouter juste un autre morceau de la bande originale de Dead Cells. Là, cette guitare, là, c'est ah, cette oui. guitare, effectivement, c'est assez incroyable. Depuis Motion Twin, depuis cette scope qui a su se réinventer quand même, quel regard on porte sur l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui ?
Ben, en fait, un truc qui... Ça m'a réconcilié avec le jeu vidéo dans le sens où, comme je disais, on est passé par le web, on avait énormément de liberté. Pour passer par le mobile, ou alors c'était l'horreur, quoi. Et puis repasser dans le milieu jeu vidéo plus classique, console et PC. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si noir que les gens le disent. Alors, on a eu de la chance, on n'est pas du tout un exemple, une référence dans ce style-là. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a une liberté de communiquer, de faire du marketing, de faire des jeux. Et en gros, on a toutes les clés en main quand on fait du jeu PC. On a la scène indépendante aujourd'hui est vraiment florissante, quoi. Et moi, ça m'a vraiment réconcilié avec cette idée de faire du jeu vidéo... PC et console, parce que y a les moyens de le faire, quoi. Aujourd'hui, c'est la meilleure époque, quoi. J'ai toujours, quand j'étais gamin, je regrettais vraiment de pas être là à l'âge d'or des jeux dans le garage. Et en fait, je me rends compte qu'on est en train de la revivre, cette période. Ouais. D'une autre façon, c'est pas pareil. Mais sur des petites équipes, produire des grandes choses, ça, c'est hyper excitant, quoi.
On a vu sur le modèle de, et tu en as parlé, hein, tout à l'heure, sur le modèle de la Scope, sur le modèle de ce qu'est Motion Twin avec des choses marquées, gravées dans le marbre. On sent aussi qu'il y a une sorte de responsabilité, enfin, de conscience sociétale, de conscience. Comment est-ce qu'on met de cette conscience dans les jeux? Moi, c'est un petit détail quand même, mais c'est le héros de Dead Cells est une héroïne, un héros. Elle a pas de tête. C'est limite un héros en écriture inclusive.
Ouais, c'est
non, il y a de ça. Enfin, c'est un point médian. Le héros héroïne de Dead Cells. C'est des petits détails comme ça où ça peut changer. Enfin, ça fait partie de la réflexion ou c'est juste.
Alors, je vais être très honnête. Non, pas du tout. Non, la partie inclusive, tout ça, c'est des choses qu'on s'est posé la question et en fait, on s'est dit. On n'a pas prétention à avoir une portée politique en fait en général ou sociétale sur le jeu. Pour nous, le jeu reste un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il peut évoquer des choses. C'est cool quand un jeu arrive à provoquer des émotions, qu'il soit de la frustration, la peine, la joie ou la surprise ou des trucs comme ça. Après, que le jeu soit porteur de messages, c'est une bonne chose, mais c'était pas le titre pour. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresserait plus sur autre chose, tu vois, sur un autre projet. Mais donc on va dire c'est plutôt accidentel. Par contre, ce sur quoi on était très très regardant et on a fait effectivement assez attention mine de rien en interne, c'était justement de faire attention à ce que on voulait pas être politiquement correct parce que le héros était vraiment un sale con, là, littéralement dans le jeu. Et
il y a quelques phrases dans le jeu.
Il se comporte mal. C'est pas
le ton. Ouais, il a un ton pertinent.
Il est caustique. On sent qu'il a rien à foutre du destin des autres gens, quoi. Mais par contre, on voulait malgré tout que ça reste respectueux, on va dire, de l'humanité en général au sens large, quoi, que ça soit l'homme, la femme ou d'autres choses, quoi. Donc oui, on, sans vouloir aller y mettre un message, clairement, c'était pas du tout le but, quoi. Mais par contre, on voulait quand même faire attention à être cohérent avec nos propres valeurs, hein, tout simplement, quoi. Donc
Merci beaucoup Sébastien Bénard d'être passé nous voir à Silence on Joue. On rappelle Dead Cells, donc tu as évoqué un DLC hein, qui arrive bientôt.
Un premier DLC qui arrive courant octobre-novembre, je pense, qui sort vraiment du gros équilibrage là, qui remet à plat le jeu, clairement. Et un autre énorme DLC aussi, les deux sont gratuits. Et le gros DLC de contenu avec des boss supplémentaires, yes. Des nouveaux biomes et tout, ça c'est début d'année prochaine.
Wow.
On a fait le même. Hein. On a fait le même. Gardez bien Dead Cells dans un coin de la carte mémoire de votre Switch s'il est là. Il y a des choses qui arrivent. On va continuer à suivre. Il y a déjà d'autres projets de jeux
dans le jeu narratif. Ouais, pas forcément narratif, mais en tout cas ça fait partie des envies. Mais il y a rien de très formulé aujourd'hui, rien que je puisse annoncer en tout cas.
Bon, on reprendra rendez-vous pour la suite alors. Encore merci et merci Patrick. Ouais,
merci.
Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même. Et à la réalisation quand même, c'est encore lui, Quentin Bresson de Binge Audio. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.